Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard pour cette édition d'Escale consacrée à la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal de l'ONU. Composée de 15 juges, élus pour un mandat de 9 ans, la Cour internationale de justice a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et est installée à La Haye aux Pays-Bas. La Cour a une double mission consistant d'une part à régler conformément au droit international les différents ordres juridiques qui lui sont soumis par les États et d'autre part à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises. J'ai reçu dans nos studios le greffier de la Cour internationale de justice, Philippe Gauthier, qui était récemment au siège des Nations Unies à New York. Dans cet entretien, il nous explique comment la Cour s'est adaptée aux contraintes posées par la pandémie de Covid-19, quelles sont les affaires pendantes et pourquoi il est important d'expliquer au grand public le rôle crucial de la Cour internationale de justice.
Je dirais que, sous un certain angle, la Cour a continué à fonctionner. Ce n'est pas entièrement exact, mais cela l'est en ce qui concerne les affaires judiciaires, qui constituent le cœur de la fonction, de la mission de la Cour. Et donc, à part une interruption en mars 2020, lorsqu'il y a eu ce confinement généralisé, où il a fallu s'adapter en catastrophe, en 2-3 semaines, pas plus, on a pu avoir ses repères et pouvoir organiser des réunions en interne, et puis avec les audiences, avec les parties, en utilisant les liens vidéo. Il y a juste une audience qui a été postposée, autrement le programme d'activité de la Cour a été suivi, avec parfois des petits changements, mais plutôt à la demande des parties que par décision de la Cour. Et donc, dans un premier temps, les audiences se sont déroulées simplement par vidéo, avec une présence des parties à distance, mais toujours avec quelques juges au siège, donc dans le hall de justice. Et puis, par la suite, on a eu ces séances, ces audiences dites hybrides, où il y a une série de représentants des parties, mais en nombre limité, et on avait mis des plexiglas, enfin, comme ce que font toutes les institutions, pour essayer de protéger les participants physiques. Et donc, 8-9 juges étaient sur le siège, avec d'autres juges participants à distance, et certains représentants des parties, les agents et les officiels, souvent dans la salle, mais avec les plaideurs, plaidants de Paris, Bruxelles, Washington ou d'autres villes. On a pu s'adapter, et je dirais que ça n'a pas ralenti. Donc, sur le plan de l'efficacité, la Cour a pu continuer. Bien sûr, il y a un aspect humain qu'on ne peut pas négliger. Il y a eu, bien sûr, du télétravail et une série de collègues qui sont restés à la maison. Heureusement, la Cour n'a pas été affectée. On n'a pas connu de cas trop sérieux, heureusement. Mais bien sûr, ça a handicapé, en quelque sorte, les activités, les réunions. Mais d'un autre côté, on a pu utiliser cela pour continuer à fonctionner et à même renforcer parfois l'efficacité via le télétravail. Et on a pu, et en tant que manager, je ne peux que constater que le télétravail à certains moments et pour certaines tâches est tout à fait efficace. Et donc il faut le reconnaître et ce sera sans doute un aspect qu'il faudra gérer dans l'après-Covid.
Et quelle est la situation actuellement avec la vaccination ? Est-ce que les choses retournent progressivement à la normale ?
Oui, on anticipe un retour vers la normale. Il n'y a pas de pourcentage de jours pendant lesquels les collègues devraient être présents à La Haye, parce que jusqu'à présent, dès que c'est nécessaire, nécessité fait loi, il y a des membres du personnel qui sont à La Haye. Par exemple, s'il y a la soumission d'une requête par un ambassadeur qui vient remettre cela, bien sûr, les collègues de moi-même et les collègues du service juridique seront présents. La même chose s'il y a une requête ou plutôt un mémoire, un contre-mémoire accompagné de milliers de pages d'annexes, et il faut que ce soit remis en une centaine d'exemplaires, bien lorsque il y a une camionnette qui arrive avec ses documents, il faut être là pour décharger. Et puis la préparation des réunions, il y a bien sûr une série de tâches qui doivent être effectuées sur place. Mais on envisage un retour à la normale et je travaille au plus près avec un comité qui s'est créé de manière ad hoc pour gérer ce COVID-19 Task Force. Et il y a des recommandations qui doivent m'être soumises pour un retour au travail sans doute début de l'an prochain.
Il y a 2 ans, ONU Info avait déjà rencontré Philippe Gauthier. Il venait alors de prendre ses fonctions de greffier à la Cour internationale de justice. Il avait déclaré que la Cour devenait de plus en plus populaire auprès des États membres. Deux ans plus tard, je lui ai demandé s'il pensait que c'était toujours le cas.
Oui, plus que jamais, je dirais. Bien sûr, il y a eu un creux de la vague en 2020, sans doute lié à la pandémie, il y a eu d'autres préoccupations. Il n'y a pas eu de nouvelle affaire en 2020. Il y en a trois en 2021. Et après notre rencontre en 2019, il y a eu également l'affaire Gambie-Myanmar. Donc quatre affaires. Il y a eu des années où le rythme était un peu plus élevé, mais si on regarde la liste des affaires pendantes, il y en a 15, ce qui est toujours un nombre record. Donc ça veut dire simplement que chaque fois qu'il y a une possibilité d'avoir un accès à la Cour et que les États en ressentent le besoin, la Cour est disponible et ils utilisent la Cour, ils soumettent leurs affaires à la Cour. C'est parfois cela qui fait défaut, c'est la possibilité de trouver une porte qui permet d'entrer et de soumettre une demande à la Cour. Parce que, comme vous le savez, la compétence de la Cour est basée sur le consentement des États. Et sans consentement, la Cour ne peut pas se saisir d'office. Donc il faut que les États aient accepté la compétence de la Cour, soit après la naissance du différend, mais ce n'est pas toujours si facile, même si ça arrive dans un cas récent entre la Guinée équatoriale et le Gabon, un cas soumis en 2021. C'est sur la base d'un compromis, d'un accord entre les deux États, qui a d'ailleurs été négocié avec l'aide active du secrétaire général des Nations Unies. Donc c'est une possibilité. Autrement, il y a la possibilité pour les États de donner leur consentement à l'avance, par des déclarations, en mettant des clauses dans des traités. Quand on conclut un traité, on ne se pose pas nécessairement la question de savoir si ce qu'il va se passer en cas de non-respect du traité. On considère que tout va bien aller. Mais non, en tant que juriste, on est là pour prévenir. Et donc, il vaut toujours mieux insérer une clause pour prévoir qu'en cas de différend, une des deux parties peut soumettre la question à la Cour. Mais donc, c'est un peu ça le contexte. Il faut des voix pour soumettre des questions à la Cour, mais lorsque ces voix existent, elles sont utilisées. Les derniers cas l'illustrent. Les deux dernières affaires qui ont été soumises sont des affaires qui concernent la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Il y a une affaire qui a été introduite par l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, l'autre par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, chacun invoquant des violations, des cas de violation de cette convention. Et vous comprenez bien entendu que le différend entre les deux États est un peu plus complexe que la question juste d'une convention, mais c'est la seule voie qui permet, parce qu'il y a une clause de règlement des différends dans cette convention, c'est la seule voie qui permet un accès à la Cour pour régler au moins ce différend lié à cette convention. Et je dirais, pour terminer en me servant de cet exemple, que dans chacune de ces affaires, les États ont demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires, parce qu'elles considèrent, les parties, qu'il y a urgence, que sans attendre une décision au fond, il faut que la Cour, selon elle, indique ces mesures conservatoires, demande aux parties d'agir avant même la décision au fond, ce qui est également un rôle de la Cour qui est de plus en plus utilisé par les parties.
Sur les affaires pendantes actuellement devant la Cour.
J'ai mentionné 15 affaires. Bien sûr, j'aurais pu dire 16 parce qu'il y a 3 semaines, il y avait encore Somalie-Kenya sur la liste qui concerne une affaire de délimitation maritime entre les deux États. Et je mentionne ça parce que c'est quand même le cœur des affaires soumises à la Cour. Ce sont les affaires de frontières, de délimitation maritime ou d'incidents liés à ces questions. Et si vous regardez le rôle des affaires de la Cour, c'est, je ne dirais pas que c'est 50%, mais c'est un pourcentage non négligeable du fonds de commerce des affaires soumises à la Cour. Et c'est normal, parce que ce sont des affaires très sensibles. Les États, parfois, en arrivent à des extrémités lorsqu'il s'agit de questions de prestige national ou de susceptibilité nationale. Et donc, il faut être prudent avec cela. Et si vous regardez parmi les 15 affaires, il y a 5 affaires qui concernent ce type de questions de délimitation. Donc, ça fait 30% un peu plus. Alors, il y a les droits de l'homme. Droits de l'homme qui, depuis plusieurs années, représentent également un nombre d'affaires portées devant la Cour. Il y en a 4. Bon, il y a celle que j'ai mentionnée déjà, la Gambie contre Myanmar, qui concerne des allégations de violation de la Convention sur le crime de génocide. Vous avez également 3 affaires, en plus, qui concernent des cas de violation alléguée de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Vous avez l'affaire Ukraine-Russie, et puis 2 affaires qui ont récemment été introduites, l'une par l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, l'autre par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. L'environnement, 2 affaires, une plus récente qui a été introduite par le Chili contre la Bolivie, ça concerne l'utilisation des eaux d'un fleuve transfrontière, les eaux du Silala. En plus de cela, bon, vous avez des questions sur les relations diplomatiques, le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, c'est un cas introduit par la Palestine, et 2 affaires concernant l'interprétation, l'application d'une convention bilatérale et les États-Unis. Il y a 2 différents qui ont été portés devant la Cour. Donc ça vous donne en quelque sorte le pouls de certains problèmes ou des problèmes les plus importants qui traversent les relations internationales et pour lesquels les États considèrent que le recours à la Cour est important et nécessaire pour eux.
Qu'est-ce que vous diriez au grand public pour expliquer l'importance de la Cour ?
Quand on parle de la Cour internationale de justice, on a souvent l'impression que c'est réservé à un public d'initiés, les représentants d'État, les représentants permanents, les ambassadeurs, les juristes, et les juristes spécialisés en droit international public, pour les différents entre-États. Mais en fait, ça concerne tout le monde, parce que l'histoire du règlement pacifique des différends, c'est une histoire qui a commencé à la fin du 19e siècle, avec la conférence de La Haye de 1899, deuxième conférence en 1907. Et ces conférences ont eu lieu parce qu'à un certain moment, les États se sont rendus compte que ça coûtait trop cher de faire la guerre et qu'il valait mieux essayer de régler les différends pacifiquement, que c'était possible. Donc c'est une histoire récente. C'est une histoire qui nous affecte tous parce que lorsqu'il y a un conflit armé, lorsqu'il y a une guerre, même si on ne peut plus utiliser ce terme, les populations civiles sont les premières à souffrir. C'est ça l'effet déclencheur, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il vaut toujours mieux de s'adresser à une cour que de se lancer dans une aventure armée. Et le coût est mineur. Le coût de la cour, avec, mettons, 4 décisions par an, c'est 27-28 millions de dollars des États-Unis. Avec ça, vous achetez quelques missiles, pas plus. Donc pour un an de fonctionnement. Je crois que ce message doit être émis, transmis, parce qu'il faut l'adhésion des opinions publiques. Et quand je vous parle de l'histoire, de l'aventure du règlement pacifique des différends, ce n'est pas uniquement des États qui ont décidé. Il y a à ce moment-là, si vous regardez l'histoire du début du XXe siècle, des résolutions des parlements nationaux, français, belges, italiens, des pays d'Amérique latine, des mouvements, des ONG qui militaient pour la paix. Donc vous avez une lame de fond qui est très importante et qu'on ne peut pas négliger. Et actuellement, on considère que le règlement pacifique des différences, it's a given. C'est comme si ça existait, ça ronronne. Non, c'est toujours quelque chose qu'il faut protéger, promouvoir, défendre. Il faut les moyens financiers. Et donc le soutien du public est important. Et là, c'est également quelque chose où la Cour doit être active.
Voilà, fin de cette édition d'Escale avec Philippe Gauthier, greffier de la Cour internationale de justice. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.